loin à la barre, nous perdrons la bagarre. Enfin creuser la serre de tous les excès, nous perdrons le procès de tout avec succès. J'y pense et puis j'oublie, j'y pense et puis j'oublie, j'y pense et puis j'oublie. La couleur est passée, nos coups rythmes nettoyés. Le muscle languide du cœur invalide, le malheur intrépide et le bonheur timide. Ramasser les débris, un bien beau gâchis. Sur nous les éboulis, tout mettre sous le tapis. J'y pense et puis j'oublie, j'y pense et puis j'oublie, j'y pense et puis j'oublie.
À ta santé, votre émission Prévention Santé.
Bonjour et bienvenue dans À ta santé, une émission d'une heure tous les 15 jours dédiée à la santé et au bien-être au travers de l'information, la prévention et de la vulgarisation scientifique. À chaque émission, nous vous proposons d'explorer une nouvelle thématique au travers d'interviews de professionnels de santé et de chercheurs, de témoignages d'auditeurs ou de patients et de chroniques en lien avec l'actualité. À ta santé, c'est sur Radio Pulsar mais aussi sur les ondes de Radio Gâtine, Aux Ondes et Radio Écho des Choucas. Cette émission est rendue possible grâce aux principaux acteurs de la santé en Nouvelle-Aquitaine qui nous permettent d'accueillir les meilleurs spécialistes et de former toute une équipe d'étudiants impliqués dans la santé aux techniques radiophoniques. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler santé environnementale et plus spécifiquement des enjeux se tissant entre logement et santé. D'après l'OMS, la santé environnementale désigne les aspects de la santé humaine qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Mais pour parler plus en profondeur des liens entre logement et santé mentale, nous accueillons aujourd'hui Antoine Gendronneau, éducateur spécialisé, et Aurélien Calonne, coordinateur du dispositif Un chez soi d'abord, qui œuvre pour fournir un logement stable à des personnes souffrant de troubles psychiques. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter les actions du dispositif Un chez soi d'abord ?
Ben, bonjour déjà. Le dispositif Un chez soi d'abord, il a des actions, et notamment ça, celle qu'on veut aborder aujourd'hui autour de l'accès au logement. Ce qui est important de dire déjà dans ce programme, c'est que Un chez soi d'abord, comme son nom l'indique, c'est d'abord un chez soi, et que le logement, c'est pas une finalité à un parcours. Nous, on l'aborde plutôt comme un préalable. Donc ça, c'est fait partie vraiment de notre action de base en lien avec le logement.
Et bonjour aussi.
Bonjour.
C'est le logement, mais on appelle ça aussi le logement accompagné par une équipe de professionnels sur un modèle qu'on appelle le rétablissement santé mentale, c'est-à-dire comment accompagner des personnes vulnérables présentant des troubles psychiques et un parcours d'errance dans l'installation pérenne d'un logement ordinaire. Donc le rétablissement, c'est un modèle qui fait la promotion de l'expérience comme valeur capitale et socle de tous les projets que les personnes concernées vont pouvoir mettre en place et profiter à la fois de leur parcours de vie et des expériences pour que celles-ci soient valorisables pour le restant de leur vie.
Oui, le logement dans ce dispositif sert de première étape pour une réinsertion. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre rôle en tant que coordinateur et éducateur spécialisé au sein de ce dispositif ?
Et ben, les principes du chez soi, c'est aussi de pouvoir travailler. Alors, l'équipe est importante. Il y a des concepts pour qui sont liés à un cahier des charges nationales, c'est-à-dire que tous les choix chez soi d'abord fonctionnent de la même manière sur un principe notamment de multi-référence, c'est-à-dire que l'équipe est composée de plusieurs professionnels et des fonctions, donc des éducateurs spécialisés, des infirmiers, des médiateurs en santé pair. On a aussi des gens qui sont sur la gestion locative. On a aussi une comptable qui est avec nous, et le principe c'est que tous ces professionnels, donc la pluriprofessionnalité en fait, deviennent plutôt de la pluricompétence, c'est-à-dire que chaque professionnel va être un peu dans le dépassement de ses fonctions pour pouvoir assurer un accompagnement qu'on dit global.
Ouais. En termes de compétences, c'est vrai qu'on a les savoirs académiques qui sont représentés par les différentes professions, comme les travailleurs sociaux ou le personnel soignant. Et on a aussi une autre compétence qui est plutôt issue de l'expérience, et notamment avec nos collègues qui sont médiateurs en santé pair, qui ont pu avoir une expérience similaire aux personnes qu'on accompagne. Et ces nouvelles fonctions dans les équipes médico-sociales méritent d'être mises en lumière, donc à travers cette émission, et notamment après tout ce qui se passe sur les dynamiques territoriales. Donc l'émergence de ce nouveau métier permet aussi de travailler sur les principes d'horizontalité, qui permettent aussi de réduire l'écart de position entre les professionnels et les personnes qui sont accompagnées.
Moi, je dirais aussi que c'est venir professionnaliser son histoire de vie, en fait, cette émergence de nouveaux métiers. Et ça sert aussi à l'ensemble des professionnels. C'est-à-dire que, au-delà de la fonction, on a aussi chacun une histoire de vie à mettre au profit de l'accompagnement. Quand on vient dire horizontaliser aussi la relation, tout ça, ça va être transposé après dans l'accompagnement. C'est-à-dire dire aux personnes que nous aussi, on a des expériences de vie, et que leur expérience de vie aussi, leur singularité, va leur permettre de se construire à travers ça. Et donc, nos collègues aussi médiateurs viennent changer aussi le regard qu'on porte sur l'accompagnement et sur le travail des professionnels, où parfois, bah, en tant que professionnel, on peut avoir tendance à penser pour l'autre. Et ça marche rarement, en fait.
Oui, donc ces médiateurs qui sont maintenant vos collègues, ils aident à accompagner les bénéficiaires du dispositif. Quel type de profil on retrouve dans le dispositif, hein, chez soi d'abord ?
Pour le public qu'on accompagne ?
Oui.
Le public des chez soi d'abord, c'est un public qui présente un parcours d'errance, qui est sans abri au moment de faire sa demande, et qui présente des troubles psychiques sévères. Voilà. Donc ces personnes-là sont rencontrées en amont par des équipes d'accompagnement social ou médical, et qui souhaitent à la fois adhérer au principe du rétablissement et pouvoir être logés aussi.
L'étude qui avait été faite, parce que le chez soi d'abord, il est aussi basé sur des chiffres. C'est un des seuls dispositifs actuellement qui est basé sur une étude randomisée, c'est-à-dire qu'il y a une étude très chiffrée qui donne à voir que ce programme il fonctionne. Depuis 2012, hein, c'est expérimenté en France. Aujourd'hui, le public aussi qu'on peut accompagner, c'est parce que il a été mis en lumière que c'était aussi un public qui était mis à l'écart, en tout cas qui ne pouvait plus accéder ou qui avait déjà épuisé, entre guillemets, les dispositifs classique de l'hébergement, mais pas du logement. Et de se dire que ce qu'on disait en préambule, que le logement, c'est pas une finalité, mais c'est un préalable, c'est-à-dire comment on accompagne quelqu'un tout de suite avec l'outil logement.
Et c'est vrai que les chiffres sont là, et ce qu'on observe aussi, nous, après quelques années de pratique, que ce soit à Poitiers ou ailleurs d'ailleurs, c'est que le logement, en tant que qu'outil et support au rétablissement, n'est pas que ça, c'est aussi le support essentiel pour lutter contre les hospitalisations, contre la précarisation des personnes, sur les retours contraints à l'hôpital ou dans les centres de détention. Et tout le travail qui s'articule autour du maintien au logement, parce que c'est pas juste la mise en logement, c'est aussi y rester, travailler, retrouver des repères, pouvoir s'inscrire aussi dans une dynamique de mieux-être. Et après, bien sûr, sur la participation citoyenne.
Moi, je vais venir alimenter ce que tu dis, hein, parce que quand tu dis que c'est aussi un public où on réduit, en fait, quand on dit que c'est une étude chiffrée, à la base, c'est aussi dire que le coût, parce qu'il y a toujours cette question du financement à un moment donné de ces dispositifs, le coût à l'État, ou en tout cas à la société, de ce travail, en fait, en ambulatoire, en tout cas au domicile, à travers l'outil logement, va revenir moins cher à la société qu'une prise en charge à l'hôpital, qu'une prise en charge en détention, qu'une prise en charge à la rue. Donc il y a aussi ça qui vient alimenter le déploiement des chez soi d'abord.
Et donc pour revenir sur ce que vous venez de dire, depuis le temps que le programme existe, quel constat vous avez pu constater au niveau de l'inclusion de ces personnes et de leur réinsertion ?
Alors les constats ils sont multiples. On va parler qualitativement parce que quantitativement ça n'a pas, on voit pas ça comme ça. On va plutôt s'intéresser à ce qui se passe dans les parcours de ces personnes-là. Avec le recul, on s'aperçoit que mine de rien, il faut du temps. Il faut du temps et l'avantage de ce programme, c'est qu'il propose aussi un accompagnement qui n'est pas borné dans le temps. C'est-à-dire que les contrats qui sont signés aussi sont pas à durée déterminée. Et là où les dispositifs d'accompagnement classiques peuvent s'arrêter au bout de 18 mois, nous, c'est le temps qu'il faut aux personnes qui sont accompagnées de pouvoir réellement prendre, retrouver en tout cas leur autonomie dans le logement et dans la société plus largement. Donc les constats qu'on observe, c'est surtout un retour en hospitalisation ou en prison qui est quand même vachement moindre, avec un bien-être qui est mesurable. Notamment grâce à des outils qui sont travaillés aussi autour du rétablissement. Mais c'est surtout l'idée et l'idéal, c'est de sortir du dispositif à un moment donné pour retrouver une autonomie complète.
On garde en tête et que c'est pas parce que c'est pas borné dans le temps que c'est quelque chose qui va durer toute la vie. C'est possible que on puisse avoir son logement, être accompagné par le chez soi d'abord parce que ça nous apporte beaucoup de choses et que ça assure une certaine sécurité peut-être aussi psychique ou en tout cas au regard du logement. Ce qu'on observe quand même, c'est que, alors on te disait pas trop de quanti, mais on a un peu de quantitatif, c'est-à-dire que c'est quand même 80% des personnes qui se maintiennent dans le logement, dans nos effectifs, c'est que depuis le début, donc depuis 3 ans, il y a quand même 19 personnes qui ont quitté le dispositif, et la plupart du temps par choix. Donc ça veut dire que reprendre aussi son pouvoir d'agir, reprendre son pouvoir à soi, c'est de se dire à un moment donné, ok, où ça a été super, le chez-soi d'abord m'a aidé à trouver un logement, m'a aidé peut-être à pouvoir me poser et à pouvoir avoir une autre vision de ce que je suis moi et de ce que j'ai envie d'être, et de se dire que à un moment donné, merci, on va continuer la route sans accompagnement aussi, et ça c'est top.
Et puis l'idée du logement, c'est aussi comment je travaille avec mes symptômes dans un endroit qui est sécurisé, qui m'est sécurisé. Et tout le travail qui s'articule autour de ces accompagnements, c'est justement l'idée de bosser aussi avec la maladie, de retrouver un équilibre au quotidien, de pouvoir construire des repères et de mener une vie ordinaire.
Oui, avoir un cadre de vie stable, ça permet vraiment un impact positif sur la santé psychique de ces personnes et aussi leur réinsertion sociale. Et justement, comment est-ce que vous mettez en place au tout début la prise en charge des personnes que vous suivez par le dispositif ?
Alors au tout début, il faut savoir que les personnes qu'on rencontre pour la première fois, on ne les connaît pas. Elles ont été orientées via une commission. Ces personnes-là, quand on prend contact avec elles, on les rencontre dans le lieu qu'elles veulent. Déjà. On va partir du principe que l'accompagnement du chez-soi d'abord, c'est les personnes accompagnées qui décide un peu de l'offre et du service qui lui est offert, et du coup, notamment du lieu de rendez-vous et de la fréquence des rendez-vous. Et la première fois qu'on rencontre ces personnes, l'idée, c'est de présenter un peu la philosophie et l'éthique du programme, du dispositif, et ensuite de travailler avec elles autour de ces projets, mais pas que, on parle aussi du rêve, beaucoup, et notamment du chez-moi. Et on a un outil qui s'appelle le chez-moi idéal, qui vient aussi recenser tous les désirs et envie, voire besoin des personnes accompagnées autour de quel est le lieu de vie qui m'est le plus sécurisant que je souhaite intégrer. Donc voilà, c'est autour des outils comme ça qu'on va pouvoir travailler, notamment le pouvoir d'agir, comme disait Aurélien tout à l'heure. C'est aussi de retrouver une certaine autonomie, une capacité de prendre des décisions et de faire des choix.
L'idée du logement, on a pour objectif quand même de faire au moins une à deux propositions de logement sous 8 semaines. Ça veut dire qu'il faut être réactif rapidement, et rapidement la question du logement, elle intervient dans l'accompagnement. On n'est pas une agence immobilière, on est un service d'accompagnement avec l'outil comme logement, mais tout de suite par les logements, mais tout de suite dans cette projection aussi et dans l'idée de comment on va le travailler. Donc le logement intervient très très rapidement dans l'accompagnement.
Oui, il y a une vraie volonté de promouvoir l'autonomie de ces personnes. En moyenne, j'imagine que ça change selon les profils, mais combien de temps va durer la prise en charge, le suivi en général
autant, autant de temps que cela sera nécessaire.
Ouais, on n'a pas de moyenne à vous donner. Alors d'une, peut-être qu'on n'a pas assez de recul, mais c'est surtout, oui, en termes de durée, on peut pas avoir, on peut même pas une moyenne, c'est compliqué.
Oui, c'est extrêmement différent en fait d'une personne à l'autre. Et combien de personnes vous suivez aujourd'hui avec le dispositif ?
Alors on a un programme qui peut accueillir 55 personnes sur Poitiers et Châtellerault, cumulé. Hein. Et aujourd'hui, on est
à 49 locataires, dont des sorties aussi. Donc, la question qu'on avait au début, c'était de se dire qu'on créait un dispositif, 55 places, non bordées dans le temps. Est-ce qu'on va pas emboliser très vite un dispositif ? En fait, on se rend compte que l'accompagnement qui est proposé permet aussi d'en sortir. Et donc, c'est depuis le début, depuis 3 ans, on est à presque 70 personnes accompagnées.
Et donc, on vient d'évoquer la genèse de ce projet. Donc, un chez soi d'abord, c'est un dispositif qui existait d'abord en France. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur comment vous l'avez mis en place à Poitiers et à Châtellerault ?
Au tout début, en fait, hein, le chez soi d'abord, quand même, c'est issu de l'Amérique du Nord, en fait, hein, du programme Housing First, qui a été transposé après en Europe et qui a été expérimenté en 2012 déjà à Marseille. Nous, en 2018, on travaillait sur des dispositifs déjà d'hébergement et de logement, et on nous a proposé de penser, en tout cas, d'imaginer un dispositif. Et c'est les dispositifs, hein, chez soi d'abord, au début, ils sont pensés pour accueillir 100 personnes sur des grandes métropoles, et la Nouvelle-Aquitaine a été pilote pour se dire, est-ce que ce dispositif est transposable sur des villes de taille moyenne. Donc on était avec d'autres villes de Nouvelle-Aquitaine à expérimenter, est-ce que c'est possible de mettre en place. Donc on accompagnait 5 personnes au début, sur les principes déjà de l'horizontalité, la multi-référence, des principes qui étaient un peu nouveaux pour nous, mais en plus de notre activité quotidienne. Et en 2020, c'est là que l'ARS et la DETS, donc l'État et l'ARS, nous ont proposé en fait de répondre à un appel à projet pour pouvoir devenir établissement en 55 places. Donc après, il a fallu tout construire, il a fallu tout penser avec les collègues qui sont encore en place. Il y a peu de mouvement dans notre équipe, et c'est une aventure collective avant tout. Donc on part de rien. Il faut trouver des locaux, il faut avoir tout ce qui gère sur le fonctionnement et l'organisation, et puis mettre en place aussi une commission d'orientation, se faire connaître, communiquer. Tout ça, c'est un long chemin qui est encore en cours, hein. Même si ça fait 3 ans qu'on a fini notre montée en charge, on avait 2 ans pour finir la montée en charge, arriver à 55 personnes, en fait, on est toujours en mouvement.
Et collectif aussi, parce qu'on travaille sur un territoire, enfin, on interagit avec des partenaires, on a un tissu au niveau du réseau social et médico-social qui est quand même très riche, et l'idée de travailler ensemble, c'est forcément... Au-delà de répondre à des politiques publiques, c'est mutualiser des ressources pour permettre aux personnes de pouvoir gagner en repère dans les villes dans lesquelles elles évoluent. Et puis nous, oui, au niveau de l'établissement, il a fallu qu'on crée aussi un établissement et associer 2 porteurs, donc un associatif qui est Audacia et l'hôpital psychiatrique public qui est Henri Laborie.
Il y a une chose quand même qu'il faut qu'on dise, hein, dans construire tout ça, ce qui a été... Pour nous, enfin pour l'instant, peut-être le plus compliqué, c'est justement sur la notion du logement, c'est la captation. C'est-à-dire trouver des logements, puisque nous, on devient locataire en titre des logements et on fait de la sous-location pour les personnes qu'on accompagne. Il faut parfois avoir un discours plutôt rodé. On a un collègue qui gère plutôt bien ça. Et pour pouvoir séduire aussi les propriétaires et pouvoir nous faire confiance de pouvoir louer les logements. Ce qui n'est pas si simple que ça. Aujourd'hui. Donc voilà, c'est aussi un appel un peu à dire voilà, il faut qu'on continue à capter des logements. Ça fait partie aussi d'une politique nationale du logement d'abord, de pouvoir dire on va capter des logements. Les gens, ils ont des droits, ils ont des devoirs, et ça, c'est à nous après, dans l'accompagnement, de pouvoir s'assurer de ça.
J'imagine qu'avec les locataires, par exemple, il peut y avoir des sortes de préjugés envers les personnes qui souffrent de troubles psychiques ou qui sont en situation d'errance. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ce dialogue justement avec les propriétaires de logements.
Alors, il faut savoir qu'on est intégré déjà dans des politiques avec des lois de 98 qui est la lutte contre les exclusions, la lutte contre la stigmatisation, et évidemment qu'on est, euh, qu'on est garant aussi de ce cadre législatif-là. Après, sur le regard social et sociétal qui est porté sur ce public, Aurélien le disait, il y a des droits et des devoirs, on est aussi à une place de plaidoyer. Les personnes qui sont dans une situation de précarité ont évidemment des difficultés à faire valoir ces droits-là. On est là aussi pour ça. Tout le travail avec le côté social et notamment les propriétaires de logements, il n'est pas simple. Il n'est pas simple parce qu'il y a des préjugés qui sont encore bien présents. Nous, on essaie de s'assurer qu'on puisse garantir à toutes les parties, en bonne intelligence, quelque chose qui puisse permettre à tout le monde de s'y retrouver. Et puis, il y a aussi une dimension un peu militante et éthique quand on vient chercher à travailler avec des propriétaires privés. C'est aussi, qu'est-ce qu'on est prêt à faire au niveau individuel pour participer aussi à la lutte contre ces exclusions-là. Et le discours à trouver, il est évidemment singulier, individualisé. On essaye avec l'expérience de pouvoir améliorer ça. C'est pas toujours simple.
Merci beaucoup à Aurélien Calonne et Antoine Gandronneau d'avoir répondu à mes questions sur le dispositif Un chez soi d'abord et de nous avoir éclairé sur les bienfaits d'avoir un logement stable, sur la santé mentale et la réinsertion des personnes souffrant de troubles psychiques. Quant à nous, on se retrouve juste après un court interlude musical avec le titre « Quiet Miss Home » de James Arthur, une chanson mélancolique sur le sentiment de manque de son foyer.
I'm in the kitchen while you smoke outside. You're careful not to let the smoke inside. I always tell you it's poison, but I know it helps you take the edge off the day. We get a drink before it's closing time. The one on High Street with the blinking sign. All of these memories feel poignant, but I won't be there to see the snow melt away. Oh, yeah, I've been gone on business. I gotta make some money. I really feel the distance, and I quite miss home, and I miss you telling me to leave my shoes at the door, 'cause you just swept the floor and the dirt drives you crazy. Yeah, I quite miss home, 'cause it feels like poetry when the rain falls down on the window while you're in my arms. The TV, yeah, I quite miss home. Yeah, I quite miss home. I smell you cooking from the living room, and then I tell you that I love your food. I know it doesn't come easy, but you know it reminds me where I'm from. Oh, I'm in another city. I got nobody with me, and it just really hit me that I quite miss home, and I miss you telling me to leave my shoes at the door, 'cause you just swept the floor and the dirt drives you crazy. Yeah, I quite miss home, 'cause it feels like poetry, and the rain falls down on the window while you're in my arms and we're watching the TV. Yeah, I quite miss home. Yeah, I quite miss home. Home. Yeah.
home.
Écoutez, à ta santé.
C'était le titre Quiet Miss Home de James Arthur. Aujourd'hui, nous évoquons la santé environnementale sous le prisme du logement, car le logement peut être corrélé à diverses pathologies affectant ses habitants. Mais je laisse Coralie et son invité nous en dire plus.
Alors bonjour Anne-Sophie Gourgue.
Bonjour.
Alors Anne-Sophie, vous êtes conseillère médicale en environnement intérieur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier ?
Oui, alors c'est un métier qui a deux fonctions principales, celle de faire des enquêtes environnementales au domicile des patients, seulement des patients qui souffrent de pathologies chroniques respiratoires, et à la fois, suite à cette enquête, il y a aussi toute une partie de conseils qui sont donnés pour améliorer la qualité de l'air de leur logement.
Les patients qui sont concernés, donc c'est donc des patients qui souffrent de maladies chroniques, est-ce qu'ils vous contactent d'eux-mêmes ?
Non, c'est toujours via une prescription médicale qui passe par une plateforme qui concerne toute la Nouvelle-Aquitaine. Et une fois que la prescription médicale est reçue sur cette plateforme, elle est dispatchée en fonction du département. Donc moi, je travaille exclusivement dans le département de la Vienne et des Deux-Sèvres.
Alors, quelles maladies chroniques sont concernées par votre intervention ?
Alors, la priorité, c'est l'asthme sévère et non contrôlé, de l'enfant en particulier, mais ça peut être aussi, évidemment, l'asthme de l'adulte, les insuffisances respiratoires, les allergies également. Il y a beaucoup de choses, tout ce qui tourne autour des allergies est également concerné par ces visites.
Alors, est-ce que vous avez un exemple concret des choses que vous pouvez mettre en place ?
Oui, par exemple sur l'asthme, on peut déjà donner des conseils pour éviter les irritants, puisqu'on sait que l'asthme, c'est une maladie inflammatoire chronique des bronches. Donc on essaye d'agir sur tous les irritants qu'on peut éviter pour aggraver en fait les choses. Donc les irritants, ils sont nombreux dans nos maisons. Ça peut être les produits ménagers, les parfums d'ambiance, les encens, les bougies parfumées, tout ce qui peut être ajouté dans l'air et qui peut avoir un effet néfaste sur les bronches, justement. Donc pour éviter d'en rajouter, on peut déjà donner les conseils, des conseils sur ces choses-là.
Vous intervenez donc au niveau de la vie quotidienne sur tout ce qui est produits ménagers, qualité de l'air. Est-ce que vous intervenez aussi sur la vie quotidienne à l'extérieur de la maison ou ça reste uniquement sur le domicile ?
Après, la fonction de la CMEI, c'est vraiment de donner des conseils sur le domicile. Mais comme ma formation fait que je suis aussi infirmière en santé environnementale, je peux aussi répondre à des questions qui peuvent concerner aussi l'usage des cosmétiques et éventuellement même celui de certains produits dans l'alimentation. Mais c'est pas le cœur du métier. Le cœur du métier, c'est vraiment de s'intéresser à tout ce qui est autour de la respiration.
Alors vous parliez de votre formation, quelle formation justement on fait pour devenir conseiller médical en environnement intérieur ?
Alors il y a un diplôme interuniversitaire qui se déroule à Strasbourg, enfin celui que j'ai fait se déroule à Strasbourg, qui s'appelle DIU Santé Respiratoire et Habitat, donc où on apprend en fait, on revoit ou on apprend selon la formation initiale qu'on a les pathologies respiratoires, et beaucoup de choses sur les allergies et également sur les prélèvements qu'on peut faire à domicile, puisque dans l'enquête environnementale, il peut arriver qu'on fasse des prélèvements. Souvent, ce sont des moisissures qu'on prélève pour aller voir de quelle nature sont les moisissures et si elles peuvent être pathogènes, si elles peuvent agir sur l'asthme ou sur des allergies.
Je vais revenir sur ces prélèvements, justement. Est-ce que c'est vous qui faites les analyses une fois les échantillons prélevés ?
Alors non, on a un laboratoire qui est central pour toute la Nouvelle-Aquitaine et on envoie c'est des scotchs en fait, hein, c'est des scotchs qu'on applique sur les moisissures et qu'on remet ensuite sur une lame et ça c'est analysé au microscope par un laboratoire qui se trouve pas du tout dans la région mais qui est le même pour toutes les CMEI de Nouvelle-Aquitaine.
Et c'est une procédure qui prend longtemps ?
Il faut compter environ 15 jours à 3 semaines pour avoir les résultats.
Donc une fois que vous avez les résultats, je suppose vous retournez voir les patients et vous mettez en place un suivi.
Alors, on ne retourne pas voir les patients parce qu'on a un financement pour une seule visite, donc on écrit un rapport de visite qu'on envoie simultanément aux prescripteurs et aux patients. Et dans ce rapport, on réécrit, on répète les conseils qu'on avait donnés déjà au domicile. Et on donne aussi l'analyse des moisissures aux patients. Comme ça, il retourne voir éventuellement son pneumologue ou son allergologue avec ses résultats.
Donc, il n'y a pas d'accompagnement après votre première visite?
Il y a uniquement une visite téléphonique, un appel téléphonique à 6 mois pour voir un peu l'évolution des symptômes et voir si cette visite a pu les améliorer, justement.
Est-ce que ça arrive qu'il y ait besoin de faire une contre-visite?
Ça peut arriver, oui, pour une question de matériel, qu'on revienne parce que on peut être amené à, par exemple, prélever de l'air, donc avec un impacteur d'air, que je n'ai pas pour toutes les visites. Donc si je ne vois pas de moisissure et je ne peux pas en prélever sur les murs, il peut arriver que je vienne dans un second temps avec cet impacteur d'air qui permet en fait de mettre de l'air en culture et voir s'il y a des moisissures qui sont invisibles à l'œil nu mais qui pourraient nuire à la santé des habitants.
Alors, en tant que conseillère médicale en environnement intérieur, avec quel professionnel vous êtes amenée à travailler?
Avec déjà avec l'ARS, puisque ils peuvent être amenés à nous proposer aussi de venir en complément de leurs visites, eux qui sont plus des visites pour constater des insalubrités ou constater du mal logement. Ça peut être une visite complémentaire pour appuyer un dossier parfois de relogement pour des problèmes graves de santé, mais c'est pas du tout la fonction première. Je travaille également aussi avec évidemment mes collègues de Villa Santé, puisque Villa Santé propose des programmes d'éducation thérapeutique autour de l'asthme. Donc je peux être amenée à conseiller ces programmes aux enfants que je vois à domicile, ou inversement, à aller chez des patients que nous avons vus en programme d'éducation à domicile et d'éducation thérapeutique et qui, au cours des ateliers, peuvent nous parler de leur domicile et nous dire que peut-être c'est intéressant d'aller voir s'il y a des choses à prélever ou à améliorer dans leur logement. Donc, dans ce cas-là, on voit avec le médecin traitant ou avec le pneumologue ou l'allergologue s'il peut prescrire cette visite.
Est-ce que vous pouvez être amené à rediriger certains patients vers des professionnels plus adaptés?
En tant qu'infirmière, non, on peut parfois donner des conseils sur éventuellement des bilans allergologiques parce qu'on voit parfois des patients qui n'ont pas eu ces bilans, mais c'est souvent parce qu'ils attendent un rendez-vous qui est assez long à obtenir. On peut aussi les rediriger plutôt vers des professionnels de l'habitat ou des professionnels des services sociaux qui vont les aider à obtenir des travaux quand c'est vraiment par exemple, quand il y a des moisissures qui sont très installées, ça peut être dû à un défaut de ventilation ou à une absence de ventilation. Donc là, on peut les amener, les conseiller en tout cas, à voir avec leur propriétaire ou leur bailleur social ce qui est les travaux qu'il y a à entreprendre pour que la qualité de l'air s'améliore.
Je vais revenir sur les programmes d'éducation thérapeutique dont vous parliez juste avant. Donc c'est des ateliers qui prennent place à la Villa Santé, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est donc des ateliers qui sont souvent collectifs, mais il peut y avoir aussi des entretiens individuels avec des infirmières spécialistes de l'AS, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Et donc, c'est ce qu'on appelle des parcours de soins. En fait, les patients sont vus dans un premier temps en individuel pour voir quels sont leurs besoins et leurs ressources. Et ensuite, ils ont, en fonction de leurs besoins, des ateliers prescrits, en tout cas conseillés, par cette infirmière. Donc, ça peut être des ateliers sur la crise d'asthme, sur les facteurs déclencheurs de la crise d'asthme, sur les traitements de l'asthme, mais aussi sur la qualité de l'air du logement.
C'est des ateliers pour prendre conscience de sa maladie, c'est ça?
C'est ça, c'est pour s'approprier sa maladie, être acteur et devenir vraiment savoir comment faire, comment la traiter et pour vraiment s'emparer de sa pathologie pour mieux la vivre et mieux la traiter.
Devenir expert un peu.
Devenir expert, exactement.
Alors, quel conseil vous pourriez donner à nos auditeurs pour améliorer son chez-soi?
Alors le premier conseil qui est tout à fait gratuit, c'est ouvrir les fenêtres. Hein. La recommandation, c'est d'aérer les pièces 10 minutes par jour, matin et soir. Déjà, c'est quelque chose qui s'est un peu perdu avec le temps, mais qui est essentiel. Si on a une VMC, vérifier qu'elle fonctionne et la faire entretenir. Normalement, si vous êtes locataire, le propriétaire est tenu de l'entretenir. Et puis éviter tout ce qui est parfum d'ambiance, tout ce qui est combustion, donc les bougies, les encens, les papiers d'Arménie. Tout ça, ça ajoute en fait des polluants dans la maison. Donc c'est pas forcément souhaitable. Et puis faire attention aussi aux produits ménagers qu'on utilise, qu'ils soient les moins parfumés possibles, les plus naturels, et qu'il y en ait de toute façon le moins possible.
Quel risque est-ce qu'on peut être confronté si on n'ouvre pas suffisamment les fenêtres ou si on n'a pas une VMC efficace pour la santé?
Ah ben on est plus exposé à des polluants qui ont un impact sur notre système respiratoire et on pense aussi qu'ils ont un impact sur beaucoup d'autres choses, donc c'est un risque pour la santé de façon globale en fait, mais c'est surtout pour la santé respiratoire que c'est pas très conseillé d'être dans des atmosphères confinées, puisque le CO2, le gaz qu'on rejette, va être en concentration trop importante. Et donc, on peut avoir des maux de tête, on peut avoir un manque de concentration. Ce qui peut arriver, par exemple, dans des classes qui sont peu aérées. Quand on a 30 élèves qui sont dans une même pièce et que ce n'est pas aéré, on a parfois ce genre de symptômes qui arrivent.
Vous parlez des classes, vous pouvez être amené à intervenir dans un milieu scolaire ou qui n'est pas le domicile, ou vous intervenez uniquement au domicile?
Aujourd'hui, j'ai pas eu cette occasion. En Charente, il y a un programme comme ça, financé par l'ARS, de visite de certaines écoles pour mesurer justement les qualités de l'air et faire de l'éducation à la fois aux parents, aux enseignants et aux enfants dans les classes où ils sont le plus âgés, c'est-à-dire souvent le CM2. Mais aujourd'hui, en Vienne, ça n'est pas proposé.
Et alors, si quelqu'un, un auditeur, n'importe qui, pense que l'air chez lui n'est pas sain ou nécessite l'avis de quelqu'un, vers qui est-ce qu'il doit se tourner?
Alors, il peut déjà se tourner vers des sources comme les sources de l'ADEME ou des sources sur Internet, s'il n'a pas de pathologie chronique, pour aller voir déjà exactement ce que c'est la qualité de l'air intérieur. Parce qu'on ne se déplace, nous, que sur prescription et donc que dans le cadre d'une maladie chronique. Et puis, il peut aussi venir à Ville la Santé, puisque aujourd'hui, si on n'est pas malade chronique, on peut aussi venir à Ville la Santé pour faire ce qu'on appelle de la prévention de promotion de santé, venir s'occuper de sa santé avant qu'on ne soit malade. Et donc, participer à ces ateliers, j'améliore la qualité de l'air de mon logement.
C'est des ateliers que vous proposez en ce moment ?
Je propose toute l'année, plusieurs fois par semaine, à des horaires différents pour que tout le monde puisse venir participer.
Et alors, quelle forme elles prennent, ces ateliers ?
Alors, c'est des ateliers qui durent 2 heures, souvent sous une forme ludique, avec une participation active du groupe. Hein, donc, c'est des ateliers collectifs. Et pour la qualité de l'air, qui sont suivis avec une fabrication de produits d'entretien et plusieurs fabrications. Et on remet aussi un livret de recettes pour pouvoir faire des produits d'entretien maison.
Et donc, pour s'inscrire à ces ateliers, on peut-être voir sur le site internet, appeler la Ville la Santé.
Alors au préalable, il faut appeler la Ville la Santé pour avoir un entretien individuel avec une des personnes de Ville la Santé, soit un promoteur de santé, soit une infirmière en fonction de son statut, malade chronique ou grand public. Et suite à cet entretien, qui peut durer entre 15 minutes et 1 heure, on pourra ensuite avoir les créneaux des ateliers. Et je rajoute que si on est une femme enceinte aujourd'hui ou un parent de jeune enfant jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans, ces ateliers sont proposés sans cet entretien préalable dans le cadre d'une action qui s'appelle 1000 jours pour agir et qui a démarré début mars.
Et si on est intéressé pour se rapprocher de la Ville la Santé, dans quelle mesure est-ce qu'on peut venir ?
Alors, c'est justement le moment, puisque vendredi 5 avril et samedi 6 avril, nous sommes en journée porte ouverte. Donc, vous pouvez venir découvrir vendredi de 14h à 18h et samedi de 9h à 13h la Ville la Santé sous forme de parcours et rencontrer tous les professionnels pour poser toutes vos questions.
Merci beaucoup, Anne-Sophie.
Avec plaisir.
D'être venue et puis d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci.
Merci beaucoup à Coralie et Anne-Sophie Gourgue de nous avoir éclairés sur le métier de conseillère médicale en environnement intérieur, encore trop méconnu du grand public. Après un petit interlude musical, nous aborderons le mal-logement, C'est une problématique complexe mettant en jeu des processus d'exclusion sociale et impactant la santé mentale et physique. Mais tout de suite, écoutons Small House de Michelle Featherstone, une chanson parlant de tous les souvenirs accumulés au sein d'une maison. Venons d'écouter Small House de Michelle Featherstone. Mais maintenant, je voudrais clore cette émission par présenter les impacts du mal logement sur la santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, pouvoir accéder à un logement décent est un droit fondamental et un déterminant de santé majeur. Pour vous donner un ordre d'idée, toujours selon l'OMS, on compte 130 000 décès rien qu'en Europe à cause de mauvaises conditions de logement. Le mal logement favorise la propagation des maladies infectieuses, la présence de moisissures, peut déclencher des irritations et des affections respiratoires, la précarité énergétique favorise l'installation du froid et de l'humidité, etc. Donc il existe un lien clair entre l'état de santé physique d'une personne et la qualité de son logement. Mais le mal logement est loin d'impacter seulement la santé physique, la santé mentale est aussi touchée. Le surpeuplement dans un logement pas adapté à son nombre d'habitants peut créer de l'anxiété, de la dépression et de l'agressivité. Car le fait d'habiter dans un logement insalubre entraîne des mécanismes de stigmatisation et d'auto-stigmatisation, ainsi que des processus de dégradation sociale et de perte d'estime de soi. Les personnes vont en fait aligner inconsciemment leur image d'elles-mêmes avec celle de leur habitat. Il est donc difficile de se sentir digne lorsqu'on vit dans un lieu dégradé et insalubre, surtout lorsque la société ne porte pas un regard bienveillant sur les personnes en situation de mal logement. Et tous ces effets ont été majorés par la pandémie de Covid-19,
qui agit en fait comme un catalyseur des inégalités liées à l'état du logement et à son impact sur la santé de ses habitants. Ça a permis une prise de conscience collective des enjeux entre santé et mal-logement. En effet, la configuration des logements a eu un vrai impact sur les mécanismes de propagation du virus, notamment à cause des phénomènes de surpopulation. Car dans un logement surpeuplé, les possibilités de pouvoir s'isoler, se protéger du virus, utiliser des douches ou des toilettes individuelles ou d'avoir une qualité d'air satisfaisante sont très compromises. Mais au-delà de tout ça, la période du confinement a vraiment mis en lumière le rapport que l'on entretient avec son foyer, si ce dernier est synonyme de sécurité ou au contraire source de danger et d'angoisse. Je pense notamment aux situations de violence familiale, de violence conjugale, qui ont été catalysées pendant cette période et qui ont aussi un impact retentissant sur la santé. Et pourtant, malgré notre expérience du confinement, nous traversons aujourd'hui en France une aggravation de la crise du logement. Je m'appuie sur le rapport 2024 sur l'état du mal-logement de la Fondation Abbé Pierre. Le rapport dénonce notamment un effondrement de la production de logements et en particulièrement de logements sociaux. L'un des reflets de cette crise du logement concerne donc les logements indignes, qui, toujours selon le rapport, seraient au nombre de 600 000 sur le territoire. À ta santé, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à nos experts d'avoir répondu présents, mais aussi à Coralie, sans qui l'émission n'aurait pas été possible. On se retrouve le 2 mai pour la dernière émission de la saison, même heure, mêmes ondes. On parlera des médecines douces, un sujet controversé dans le monde médical.
C'était À ta santé, votre émission prévention santé, réalisée en partenariat avec la MGEN de la Vienne, les établissements Elsan de Poitiers et la MSA Poitou.
Vous écoutez Osons FM 99.7.
Disagree. inside your tiny mind and look a bit harder. 'Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. Get slew. No one wants your opinion.